La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Vous avez lu la presse rwandaise ce matin.
Eh bien, m'en a pris, puisqu'en parcourant les derniers articles publiés par le New Times de Kigali, j'ai découvert une information encore absente de nos journaux européens, alors qu'il me semble, vous allez voir, qu'elle y aurait peut-être sa place. Jugez plutôt, le New Times nous apprend que ce mardi, le gouvernement du Rwanda va signer un accord avec le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, le HCR, et l'Union africaine pour prendre en charge l'accueil dans un premier temps de 500 migrants ouest-africains actuellement pris au piège des centres de détention libyens. Le quotidien nous rappelle qu'il y a 2 ans déjà, le président du Rwanda, Paul Kagame, avait fait savoir que son pays était prêt à jouer la carte de la solidarité africaine, à offrir un refuge à ces migrants, le temps en tout cas que l'Europe instruise leur demande d'asile et décide de leur sort. Le petit pays d'Afrique de l'Est va donc devenir, avec le Niger, le 2e état du continent africain à accéder aux demandes européennes et onusiennes. Il va rejoindre le système du ETM, Emergency Transit Mechanism, qui permet à l'Union européenne de gérer les flux migratoires le plus loin possible des côtes de la Méditerranée.
Oui, ça, c'est en tout cas le décryptage qu'en fait le New York Times, qui a eu vent de l'affaire.
Le quotidien new-yorkais qui décrit l'accord devant être signé aujourd'hui, non pas comme un engagement entre le HCR et le gouvernement rwandais pour prendre en charge ponctuellement quelques centaines de migrants, mais bien comme la mise en place d'un partenariat avec l'Union européenne pour s'occuper des réfugiés à sa place, moyennant bien sûr une aide financière conséquente et pas officiellement chiffrée. Bruxelles agirait donc avec le Rwanda comme elle l'a fait ces dernières années avec la Turquie, la Libye ou encore le Niger, on l'a déjà dit, avec tous les doutes que l'on peut avoir sur l'aspect moral, éthique de cette stratégie. Et voilà qui inspire cette réflexion au New York Times. Faut-il vraiment que la vie politique européenne soit fragilisée, intoxiquée par cette question des migrants pour que ces décideurs en arrivent à penser qu'il est une bonne chose de s'en remettre au Rwanda pour gérer cette crise migratoire à leur place. Et le journal américain va même plus loin, citant un responsable de l'ONG Human Rights Watch, lequel fait le parallèle entre cette stratégie européenne qui consiste à éloigner le problème et la politique migratoire tant décriée ces dernières années d'un pays comme l'Australie, qui parque ses demandeurs d'asile sur de lointaines îles du Pacifique avant d'accepter d'en accueillir une infime minorité sur son territoire et surtout d'en renvoyer la très grande majorité de force et à l'abri des regards vers leur pays d'origine. Mais le New Times de Kigali, on revient vers lui, refuse de voir cet aspect-là des choses. Il s'en tient à la communication très positive des autorités rwandaises, l'impératif de solidarité donc qui s'impose aux Africains face aux exactions dont sont victimes leurs frères et sœurs en Libye, mais rien sur l'aide financière que devrait verser l'Europe en échange et rien non plus sur les arrière-pensées diplomatiques que pourrait nourrir le président Paul Kagame. Dans les archives du journal français La Croix, j'ai retrouvé un article datant de fin 2017 quand Le Monde avait pris conscience des horreurs subies par les migrants en Libye. Déjà, à l'époque, Kagame avait fait savoir qu'il voulait participer à leur accueil, une bonne volonté qui avait prêté à quelques critiques, sachant qu'au même moment, le Rwanda était lui-même sur la sellette internationale pour la dérive répressive de son régime, les tortures pratiquées sur des prisonniers dans ses centres de détention et la censure qui se généralisait à travers le pays, selon en tout cas le rapport de la FIDH.
Et puis on jette, Camille, à présent un œil sur les journaux britanniques. Brexit oblige, mais pour une fois, ce n'est pas le visage de Boris Johnson qui s'affiche sur les unes.
Et non, c'est celui de John Bercow, l'inénarrable speaker de la Chambre des communes. Et ce visage sur à peu près tous les titres que compte le kiosque britannique ce matin est un visage grimaçant, un peu contrit, ému, surtout les yeux humides et la main sur le cœur. John Bercow, ce personnage devenu incontournable dans le feuilleton mondo diffusé du Brexit, a annoncé hier qu'il va quitter ses fonctions le 31 octobre prochain.
I would like to make a personal statement to the House. I have concluded that the least disruptive and most democratic course of action would be for me to stand down. This has been...
Voilà, c'était juste avant le vote d'hier où les députés ont une nouvelle fois bloqué les élections anticipées voulues par Boris Johnson. John Bercow annonce qu'il va quitter le perchoir quoi qu'il arrive, estimant qu'il a promis à ses femmes, à ses filles et à sa femme de ne pas repartir pour un nouveau mandat qui lui semble plus démocratique, plus respectueux des institutions britanniques, que son successeur soit nommé avant l'élection d'un possible nouveau parlement. Du coup, écrit l'édition londonienne de Metro, le 31 octobre, ce ne sera sans doute pas finalement jour de Brexit, mais jour de Berk-off. et le quotidien gratuit d'indiquer que le speaker a préféré choisir le moment de son départ plutôt que d'être poussé vers la sortie par son propre parti, le parti conservateur. Car The Eye l'a bien noté aussi, la standing ovation qui a accompagné l'annonce d'hier en séance est venue de l'aile du Parlement où siègent les députés anti-Brexit, travaillistes et opposition. Bien peu de conservateurs se sont levés et pourtant c'est bien dans leur rang que John Bercow a fait carrière. Toutefois, pour The Guardian qui propose comme pour un humoriste un florilège vidéo des meilleurs moments de John Bercow à la tribune, le speaker avait ces dernières années, à la faveur des débats sur le Brexit, viré beaucoup trop à gauche pour les partisans de Boris Johnson, dont il était d'ailleurs l'une des voix à la fois les plus tonitruantes et les plus critiques. Durant ses 10 ans au perchoir, il n'aura eu de cesse que de renforcer les pouvoirs du Parlement contre le gouvernement, quitte, disent ses détracteurs, à faire la pluie et le beau temps, à paralyser selon son bon vouloir, par exemple le processus du Brexit. Je vous laisse lire d'ailleurs les noms d'oiseaux que lui réserve ce matin The Daily Mail. Ça va de Petit John à Demi-Portion. D'ailleurs, l'homme au verbe goguenard et aux cravates bariolées ne quitte pas son poste sans voler une dernière politesse à Boris Johnson. Il décide lui-même du moment pour démissionner, nous dit The Eye, pour s'assurer que son successeur sera bien désigné par l'actuel Parlement qui est majoritairement contre le Brexit. J'ai pas pu résister.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.